Voilà, nous allons prendre le livre de 1 Roi au chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Il est écrit ceci. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galade ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. » C'est Michée, fils de Yimla. Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Yimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en Galade ou devons-nous nous en abstenir ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Mais le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? Michée répondit, tu le verras bien le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, écoutez, vous tous, peuple. Et finalement, dans la suite, le roi a été tué pendant cette guerre. Alors, le thème que je vais partager, c'est Ésaïe 55, 8. Donc, on va revenir sur 1 roi 22 après. Mais 1 roi 22 est une illustration de Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, 8. Il est écrit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit de sa parole ? Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Le Seigneur nous montre que sa parole est extraordinaire. Elle est fidèle, elle est forte, elle ne bouge pas, elle produit et elle retourne à lui. Sa parole est inviolable. Sa parole, c'est ça la vérité. Et alors que nos pensées peuvent être juste de la fumée. Vous savez, c'est parce que les gens n'avaient pas les pensées de Dieu qu'ils ont rejeté son Fils. Mais eux, ils étaient convaincus qu'ils faisaient le bien. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la pensée de Dieu. Nous devons faire attention à nos pensées. Quand nous avons des idées, des pensées, des positionnements, nous devons prendre la Bible toujours. Vérifier, est-ce que nos pensées sont conformes à la Bible ? Bien-aimés, vous savez que dans un accès de colère, on peut être convaincu que donner un coup à quelqu'un, c'est justifié. Quand on est en colère, on est convaincu que ce qu'on fait est vrai. Hein? On est convaincu que ne pas parler à sa femme, c'est ça qui est bon. On est convaincu que ne pas parler à son mari, c'est ça qui est bon. On est convaincu de nos actes, mais c'est la colère. Nous avons besoin à chaque fois de prendre nos pensées et de mettre ça devant la parole. À chaque fois, il y a eu des problèmes, même parmi les vrais de Dieu et Dieu lui-même, à cause des pensées de l'homme. Qui n'a pas eu des problèmes ? On a vu Abraham, le père de la foi. Il a trouvé dans son raisonnement que c'était compliqué qu'à son âge et à l'âge de sa femme d'avoir un enfant. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, tu auras un enfant. Mais Dieu dit que sa parole est forte, ça va s'accomplir. N'oublions pas, bien-aimé. Mais sa femme est venue avec la pensée suivante. Mais mon mari, regarde notre âge. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Et souvent, c'est le terme réaliste là qui nous sort de la parole de Dieu. On dit soyons réalistes. Mais la parole de Dieu est plus forte que la réalité. Parce qu'il est écrit, tout est soutenu par la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Le monde entier est soutenu par la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui rend ce qu'on voit réel. Sans la parole, tout disparaît. Mais nous, on dit, Soyons réalistes. Le Seigneur est clair. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est important. Peu importe comment nous recevons une révélation, de filtrer vraiment avec la parole de Dieu. Vraiment avec la parole de Dieu. Dans son ensemble, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu, de toute la parole, pas quelques versets qu'on a choisis. La difficulté, par exemple, qu'on a aujourd'hui de comprendre que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, elle ne doit pas enseigner. C'est écrit, hein, 1 Timothée 2. C'est écrit très clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans 1 Timothée 2, 11, que la femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc, par conséquent, elle ne peut pas être pasteur. Mais c'est écrit noir sur blanc. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas avec nos pensées. On se dit, mais on discute avec les femmes, elles comprennent la parole. On discute avec les femmes, elles réussissent en classe. Parfois, elles ont de meilleurs résultats que nous. Et on ne comprend pas pourquoi elles ne pourraient pas enseigner. Mais puisqu'il y a des professeurs à l'école qui sont des femmes, on ne comprend pas. Comme on ne comprend pas l'instruction, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des prophètes qui vont nous dire ce qu'on veut. Et ces prophètes-là, ça peut être nous-mêmes. On choisit quelques versets qui peuvent appuyer nos pensées. Et ce qui est rigolo, c'est que ces versets-là viennent, vous savez, de même qu'un serviteur de la vérité reçoit les versets, quand on doit aussi s'égarer, on reçoit comme une inspiration qui nous donne l'impression que ce n'est pas nous. L'inspiration est venue de l'extérieur. Mais en réalité, c'est nous. C'est ça le processus. On a des pensées, on a des logiques. Dieu connaît ça. Et il voit que nos pensées et nos logiques contredisent sa parole. Il essaye de nous récupérer, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter un prophète de mensonge. Le prophète de mensonge, ça peut être quelqu'un qui prêche vraiment ce que nous on veut. Une fois, on avait fait un séminaire intitulé « Convoitise et mécanismes sectaires ». Et dans ce séminaire, on expliquait que la soif de quelque chose peut engendrer une fausse prophétie chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, tu as soif d'une maison, tu arrives dans une autre église où on ne te connaît pas, et quelqu'un prophétise que je vois une maison qui est donnée à quelqu'un. Toi, tu te dis, mais puisqu'ils ne me connaissent pas, c'est vraiment Dieu qui me parle. Et il y a une personne en Belgique qui a écouté ce séminaire. Quand je l'ai rencontrée physiquement, elle m'a dit, mais tu ne peux pas savoir combien cette parole a été une délivrance pour moi. Parce que je suis originaire du Congo. Et comme je n'ai pas d'enfant, je priais pour avoir un enfant. On me prophétisait par des pasteurs différents que j'aurais un enfant telle année, telle ceci, mais ça ne s'accomplissait pas. Et finalement, j'en avais conclu que Dieu ne m'aimait pas, ou Dieu mentait, ou Dieu n'avait pas la puissance. Puisque elle m'a donné le dernier épisode, c'était un pasteur invité qui a prêché sur le fait qu'il fallait se penser semer. Vous savez, les prédications d'aujourd'hui, il faut semer. Tu veux que Dieu t'exauce, il faut semer, il faut faire une offrande. Et ce pasteur m'a fait appeler, m'a dit que j'aurais un enfant, mais il faut que je sème. Mais comment il pouvait savoir que j'avais ce problème-là? Et moi, je m'étais dit,
Là, Dieu m'a vu, puisque le pasteur lui avait donné une année, je crois. Dans une année, tu auras un enfant, mais il faut que tu sèmes. J'ai donné $500. Je m'étais dit que l'année prochaine, je vais avoir l'enfant. Je n'ai pas eu. Mais quand j'ai écouté, puisque la logique, c'est quoi? Mais il ne me connaît pas. S'il dit ça, c'est que c'est Dieu qui lui dit, puisque lui, il ne me connaît pas. Mais quand dans le séminaire, il a écouté que la convoitise peut créer un esprit de mensonge chez quelqu'un d'autre, envoyer un esprit de mensonge pour te conforter dans ton erreur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. C'est ce qu'on est, on va y revenir sur 1 Roi 22. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pourquoi nous devons être prudents avec nos pensées. Quand nous avons des pensées, nous avons des projets, nous avons des idées, ramenez toujours à la parole de Dieu. Bon, vous allez me dire, bon, si j'ai la pensée d'aller en Chine, bon, comment je vais vérifier ça dans la parole? Mais ramenez ça à Dieu. Et si vraiment c'est de Dieu, être capable de tuer le projet, de dire, bon, comme il y a quelques difficultés, moi je m'étais dit que c'était Dieu, il y a des difficultés, bon, je tue le projet. Et comme Dieu est tout puissant, qu'est-ce qu'on a lu? Parce que je ne vous ai pas lu qu'une partie, hein, on n'a pas lu que 8 qui dit « mes pensées ne sont pas vos pensées ». On a lu aussi là, 10 et 11 qui dit « ma parole est comme la pluie, elle produit toujours ». Si c'est vraiment Dieu qui voulait que tu ailles en Chine, ben même quand toi tu tues le projet, lui il va ressusciter le projet. N'est-ce pas, c'est Dieu qui voulait que Abraham et Isaac soient le fils producteur de la lignée d'Abraham. Mais Abraham, puisqu'il faisait confiance en Dieu, il a dit, mais si Dieu tue Isaac, il le ressuscitera. Donc je peux aller le tuer. Comme il me demande, il me donne un ordre. Abraham qui avait échoué en produisant Ismaël, cette fois-ci, il n'a plus échoué. Il a dit, maintenant, je vais écouter la voix de Dieu. Il me dit de tuer Isaac, je vais aller tuer. Mais ses pensées devaient lui dire quoi? Mais c'est Dieu qui t'a promis que c'est Isaac qui va constituer ta suite. Comment alors qu'il n'a pas encore d'enfant, tu vas le tuer? Ça, ce sont les pensées d'Abraham qui pouvaient venir en ce moment et à nous tous. Il dit, mais c'est une contradiction. Dieu m'a dit que c'est Isaac qui va produire la suite. Maintenant, il me demande de le tuer. Contradiction. Mais ce qu'on doit se dire, hein, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Mais pas dire, faire des raisonnements. Chercher ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que je le tue. Bon, je vais le tuer. Quel est notre boulot? Que dit le Seigneur? Boulot à faire. Travail à faire. Que dit le Seigneur par rapport à ma situation dans sa parole? Il dit quoi? Parce que ce que dit le Seigneur gagnera toujours. Ce que dit le Seigneur réussira toujours. Mais ce que tu penses peut réussir un temps, mais ça sera qu'une illusion. Ça finira par disparaître, comme toutes les illusions. Ça finira par disparaître. Mais ce que dit le Seigneur tiendra. Abraham a dit, bon, le Seigneur avait dit. Parce que nos pensées peuvent être aussi ce que le Seigneur avait dit avant, mais qu'on a lié qu'à un contexte. On se souvient de ce que Dieu avait dit à Moïse, non? Fais le serpent en bronze, les gens vont regarder le serpent, quand ils seront piqués, quand ils vont regarder, ils seront guéris. Mais c'était selon un contexte. Alors nous, on va prendre ça, on en fait une règle. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu l'avait dit selon un contexte. Et c'est devenu une tradition pour les gens. Comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé le ministère, tout le monde parlait en langue. Ils en ont fait une règle. Ils ont dit que désormais, celui qui ne parle pas en langue, il n'est presque pas sauvé, quoi. C'est toujours comme ça. La pensée de nos pensées personnelles peuvent venir d'une ancienne parole de Dieu dans un contexte qu'on transforme en notre logique personnelle. Et les gens ont commencé à faire de l'adoration devant ce serpent-là.
jusqu'à ce que vienne un homme de vérité, Ézéchias. Ézéchias a détruit ce serpent-là. Il a détruit les idoles, il a détruit même ce serpent-là, parce que tout le monde disait, oh, c'est Moïse qui l'a fait, hein. Qui va toucher? Parce qu'en Israël, on ne touche pas Moïse. Vous savez, à chaque fois qu'on voulait créer des problèmes à Jésus, on l'accusait d'avoir attaqué Moïse. À chaque fois qu'on voulait créer des problèmes à Paul, on l'accusait d'avoir attaqué Moïse. Donc, on ne touche pas Moïse en Israël. Qui pouvait toucher le serpent que Moïse avait laissé? Personne. Mais Ézéchias a dit, pas question, je vais toucher. C'est de l'idolâtrie, on détruit ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, ce n'est pas ce serpent-là, on le détruit. Que ça vienne de Moïse ou pas, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'on l'adore dans l'invisible, sans qu'on le voie. Ce n'est pas un objet. On doit toujours rechercher qu'est-ce que Dieu dit. Dieu a dit, tu tues Isaac. Abraham, avec son ancienne erreur, il a dit, je ne fais plus d'erreur. Je veux obéir. Le reste, quand le fils lui dit, le fils veut le faire raisonner. Mais où est la brebis? Où est le mouton que tu vas immoler? Abraham a dit, Dieu lui-même se pourvoira du mouton. Dieu lui-même résoudra ce qu'il y a à résoudre. Moi, il m'a dit de faire telle chose, je fais. Bien-aimé, c'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Obéissons. On se dit, mais c'est pas normal. Les femmes, elles comprennent la parole. Elles expliquent. Vous savez, quand souvent on faisait des camps bibliques ici à l'église avec les jeunes, on faisait des ateliers. Et chaque atelier nommait un rapporteur, quelqu'un qui vient expliquer la position du groupe par rapport à un thème donné. Bien-aimés, les jeunes sœurs, quand elles parlaient, elles parlent avec efficacité. Ça tenait la route. Et quand tu entends ça, tu dis, mais tiens, mais elles peuvent bien parler comme nous. Elles peuvent expliquer les choses comme nous. Elles savent se défendre comme nous. Alors, mais pourtant, l'ordre est clair que la femme n'enseigne pas. On se dit, non, ça a dû être mal écrit. On va chercher comment contourner ça. Et on va commencer à dire, non, mais c'est un ordre qui a été fait quand on était à tel siècle, c'est à cause de telle chose. Tout ce qu'on dit là n'est pas écrit. Hein. Ce qui est écrit, c'est la femme n'enseigne pas. Mais notre pensée ne l'accepte pas. Parce que notre pensée réfléchit par rapport au naturel, par rapport à ce qu'on voit, on se dit, mais elle parle bien, elle explique bien les choses comme nous. Mais oui, mais ce n'est pas une question de parler bien, ce n'est pas une question de bien expliquer, c'est une question d'autorité. Dieu a décidé qu'elle n'avait pas l'autorité de faire ça. Un exemple simple, le président, ce n'est pas l'homme le plus intelligent du pays. Il y a des gens en France qui ont Bac plus 30. Et même quand ils ont Bac plus 30, ils continuent toujours à étudier, c'est des chercheurs. Mais quand le président donne une instruction, ils obéissent. Hein. Mais pourtant, peut-être le président a Bac plus 4. Eux, ils ont Bac plus 30. Mais ils obéissent parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Les choses de Dieu, c'est une question d'autorité. Ce n'est pas une question d'intelligence, ni de diplôme. C'est une question d'autorité. Ce n'est pas une question de « je peux parler, je peux expliquer ». C'est une question d'autorité. On ne t'a pas donné cette autorité. Ce n'est pas à toi de faire les choses. Tout simplement. Tu Isaac, Abraham dit, ben, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai déjà échoué. On m'avait dit d'attendre Isaac. Je n'ai pas attendu. J'ai fait Ismaël. Ça me crée des problèmes aujourd'hui. Cette fois-ci, je ne veux plus désobéir. Je veux obéir, tout simplement. Je veux que Dieu soit mon soutien. Je veux qu'il me soutienne. Bien-aimés, cherchons le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu se trouve dans sa parole. Mais les raisonnements vont te dire, mais tiens, regarde, toi tu obéis à la parole de Dieu. Le psaume 60, c'est ça le psaume 73. Toi tu obéis, mais depuis que tu obéis, il n'y a que des difficultés, il n'y a que des blocages. Regarde l'autre, il est ouvert. On va dire, toi tu es fermé, mais l'autre il est ouvert. Il comprend les choses, voilà comment il prospère. Parce qu'il est ouvert d'esprit. Toi tu es fermé, tu ne progresses pas. C'est faux bien-aimé, le temps montrera qui a fait le bon choix. Soyons patients. Il est écrit dans Malachie, le temps montrera ceux qui prient dans la vérité et ceux qui prient dans la fausseté. C'est une question de temps. Les gens vont dire, mais oui, mais il parle.
Il n'a même rien acheté depuis qu'il est dans le Seigneur. Nous, on a des grands bâtiments, on a des chaînes de télévision. Notre méthode, ça marche. Lui, il a quoi? Oui. Mais ce n'est pas ce que tu as qui va changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est vérité. Tes affaires que tu fais là, ça passera. Même l'Empire romain est passé. L'Empire perse est passé. L'Empire mongol est passé. Des grands empires sont passés. Des grands acteurs sont passés, mais la parole de Dieu est toujours là. On continue toujours à prêcher Jésus. On continue toujours à chanter Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle ne bouge pas. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Voyons le processus. Reprenons 1 Roi 22. Il est écrit ceci. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. » Qui a eu l'idée? C'est le roi. C'est le roi qui a l'idée. Il se dit, mais tiens, mais Ramoth, c'est comme nous à l'époque, l'Alsace, mais c'est encore occupé. Il se dit, mais non, on doit récupérer Ramoth. C'est à nous, les Syriens l'occupent. L'idée vient de qui? Ça vient du roi. Nous continuons. Quand quelqu'un a une idée, il essaye de convaincre d'autres personnes. C'est le processus. Il essaie de convaincre ces gens qui l'entourent. Les gens disent, mais oui, pourquoi pas? Verset 4, il dit à Josaphat, maintenant le roi de Juda, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux, on est des amis, je t'accompagne. » Mais il est quand même un peu plus prudent. Qu'est-ce qu'il dit? « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Amen. » Donc, au moins, il a le réflexe de dire, « Bon, t'es mon ami, mon peuple, c'est ton peuple. Je te soutiens, mais c'est mieux qu'on soit quand même soutenu par la parole de l'Éternel. Si on est soutenu par la parole de l'Éternel, on n'échouera pas. Ça doit être le réflexe. Quand on veut conseiller les gens, quand on veut aider quelqu'un, quand on veut soutenir quelqu'un, il faut que cet ensemble-là soit aussi soutenu par la parole. Donc Josaphat a le bon réflexe, il dit « consultons quand même l'Éternel ». Mais je crois qu'en lui-même, il n'était pas trop à l'aise avec l'idée, mais comment dire à son ami « non, je ne suis pas trop à l'aise ». Diplomatie, on va consulter l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400. Hein? 400, hein? Et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth à Galade ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » 400 prophètes disent quoi? La même chose que l'idée du roi. Ce que nous aimons profondément, tout en rejetant la vérité divine, ben Dieu va permettre qu'il y ait beaucoup de prophètes qui nous disent ce que nous aimons. 400, ils ont dit, tu iras et tu gagneras. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tout ce qui concerne l'amour pour les biens de la terre. 90% des églises aujourd'hui parlent de la prospérité. Pour plaire à l'homme. 90% sont d'accord que les femmes enseignent. 90% refusent que les femmes portent le voile. 90% sont dans le show business avec la vente des CD, le commerce dans l'œuvre de Dieu. Mais rien n'a changé. Ça a toujours été comme ça. Quand on a une idée forte dont on ne veut pas se départir, Dieu va envoyer des gens pour nous encourager dans cette erreur-là. 400 prophètes ont dit la même chose. T'as raison. Et nous pouvons faire partie nous-mêmes de ce prophète-là. Donc, nous-mêmes, on a comme une inspiration. On se dit, mais comme c'est une inspiration, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extérieur. C'est forcément Dieu qui m'inspire. Ah non! On a un très bon exemple. L'apôtre de Jésus, Pierre, il a dit à Jésus, n'en déplaise. Quand Jésus dit, j'irai à la croix, il dit, non, Dieu ne veut pas ça. C'est ce qu'il dit à Jésus. À Dieu ne plaise. Dieu ne veut pas ça. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Tes paroles sont des paroles d'homme. Hein, c'est curieux, hein, dans Matthieu 16. Il dit, arrière de moi, Satan. Après, il dit, tes paroles sont des paroles d'homme. Jésus nous montre par là que les pensées de l'homme vont souvent avec les pensées de Satan. C'est Satan qui inspire, mais l'homme aussi est comme ça. Il veut ça aussi. Ce sont des pensées d'homme. Ça vient de ton raisonnement. Dans ton raisonnement, tu te dis, le Messie ne peut pas être crucifié. Le Messie ne peut pas être malmené par des humains simples. Dans ton raisonnement, tu te dis, mais Jésus, combien de fois il a échappé aux gens qui voulaient le lapider ou le tabasser? Jésus a ressuscité des morts. Jésus a calmé la tempête. Est-ce qu'un tel homme, on peut le soumettre? Jésus a chassé les vendeurs du temple, dans le temple, et on ne lui a rien fait. Parce que les gens ne connaissent pas le contexte. Vous savez, les sacrificateurs, ils avaient une garde armée. C'est-à-dire qu'ils avaient des soldats qui faisaient de l'ordre. Ils étaient comme un pays. Donc, ils avaient un gouvernement, les sacrificateurs, avec des soldats. Ils pouvaient dire à ces soldats de venir t'arrêter. Mais Jésus chasse les vendeurs du temple, personne ne le touche. Ni les gardes, ni les soldats, ni les gens même qu'il chasse, personne ne le touche. Il est tout seul. Ce n'est pas les 12 apôtres qui allaient le protéger. Mais Pierre dit, par rapport à son raisonnement, un homme comme ça, on ne peut pas le taper, on ne peut pas le faire souffrir. C'est son raisonnement. Maintenant, comme son raisonnement, sa pensée refuse la croix, Satan maintenant lui donne la force pour dire, Dieu ne permettra pas. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan. Qui parle? Satan, mais il vient. Comment Satan peut parler? Parce que l'homme n'accepte pas la pensée divine. Quand nous résistons à la pensée divine, nous ouvrons une porte pour que Satan vienne agir dans nos vies. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais en même temps, il dit, tes paroles sont les paroles d'homme. Donc, ton raisonnement est un raisonnement humain. C'est ce qui donne à Satan l'ouverture pour t'inspirer, pour te donner une force dans ton erreur. Parce qu'il faut savoir que l'homme n'a pas vraiment de force. La force vient des esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit des autres esprits. C'est ce qui fait que les gens même qui font le péché ont une force surnaturelle dans leur péché. La force vient des esprits. Nous qui avons fait un peu le karaté, mon oncle était ceinture noire. Mon oncle disait, lui n'a jamais fait de contrat de magie, il n'avait jamais fait de contrat de magie. Mais le fait qu'il avait atteint une certaine dimension, il était possédé, il avait une force surnaturelle sans avoir fait de contrat avec Satan. Les esprits viennent en fonction de ce que tu fais pour t'encourager, pour te donner une force surnaturelle. À force de faire des cris, on a des cris qu'on faisait dans le karaté, ces cris-là te donnent une certaine force surnaturelle. Mais ce n'est pas que tu as fait un contrat. Et donc, pour tenir tête à Jésus, pour dire, ça, je ne suis pas d'accord, ça ne vient, Dieu ne permettra pas, ça c'est Satan qui donne la force. Mais, qu'est-ce qui permet à Satan de donner cette force? Ton refus personnel de ce que Dieu dit lui-même. Parce que ça ne colle pas avec ta pensée. Ça ne colle pas avec ton raisonnement. Ta pensée te dit, mais il est fort, il est le Messie c'est un victorieux, c'est un roi vainqueur, il ne peut pas aller à la croix. Ça c'est le raisonnement. Satan vient maintenant donner la force pour défendre ce raisonnement-là. Et c'est ce qu'on voit là. Le monsieur est convaincu que, et c'était vrai aussi, Ramoth en Galade, c'est à eux. Les Syriens avaient pris ça à une époque, c'est logique. Voilà. Souvent dans notre raisonnement, il y a un terme, c'est logique qui vient. C'est logique qu'on récupère ce qui est à nous. Maintenant, Tu veux récupérer ce qui est à nous, mais tu te souviens quand même que tu es le peuple de Dieu. Il faut que Dieu t'appuie. Mais puisque Dieu ne t'appuie pas, Dieu ne t'a pas appuyé dès le départ, tu vas créer l'appui. Et Satan va venir pour t'appuyer. Hein? Et Dieu laisse faire parce que Dieu a vu en toi que tu as pris une décision, tu ne veux pas changer. Et Dieu sait bien que le seul moyen de te changer, c'est de te faire toucher le feu. Si tu arrêtes avant, tu vas être toujours dans les murmures, tu vas être toujours dans une certaine insatisfaction, tu vas être toujours dans des problèmes. Le seul moyen, c'est de te laisser faire, toucher le feu, c'est comme ça que tu comprendras. Alors il va permettre ce qu'on voit là, 400 prophètes qui disent ce que toi tu veux. Mais Josaphat est quand même prudent. Il se dit, mais 400 personnes qui disent les mêmes choses normalement, il fallait qu'on trouve quand même 2 ou 4 qui disent autre chose. On est quand même dans la communauté des humains. Même s'il y a le Saint-Esprit, la chair existe. Donc, que 400 personnes disent la même chose, c'est quand même exceptionnel, quoi. On a vu quand même chez Jésus, il y avait 12 personnes, mais il y a un qui n'était pas pareil. Donc, 12. Mais là, 400 qui disent la même chose. Josaphat dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre prophète encore? Le roi lui-même avoue, il y a un prophète, c'est vrai, mais il risque de dire autre chose. Oh, mais toi, tu cherches qu'on te dise la volonté de Dieu ou bien qu'on te dise ce que tu aimes? C'est la question qu'on doit se poser. Bien-aimé, je ne suis pas parfait. Je suis un humain comme tout le monde. On aimerait tant que Dieu nous dise ce qu'on veut. Mais préférons qu'il nous dise ce qu'il veut. Parce que ce que lui, il veut, il va soutenir ça jusqu'au bout. Mais ce que nous, on veut, il peut soutenir ça pendant 10 jours, 2 ans, 3 ans. Quand je dis qu'il peut soutenir ça, ça veut dire qu'il peut laisser faire. Ça ne tiendra pas parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est éternelle. L'apôtre Paul dit ça dans 1 Pierre 2, 25, il dit « la parole permanente et vivante de Dieu ». Vous savez, dans la Bible, on insiste trop pour dire que Dieu est vivant. Ça veut dire que les autres choses sont mortes, mais c'est juste qu'elles ont un temps de vie limité. Mais pour Dieu, c'est mort. Pour quelqu'un qui est éternel, tout ce qui est limité dans le temps est mort. Parce que lui, il est éternel. Il vit, ça fait des milliards, des milliards, des milliards d'années. Quand il est face à quelque chose qui ne dure que 120 ans, pour lui, c'est mort. Il voit la chose morte. Voyez, mettez-vous à sa place. Pour lui, quelque chose qui dure 30 ans, c'est mort. Parce que 30 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Pour lui, c'est mort, tout ça. Et donc, ton choix, c'est la mort. Et il va te laisser dans ton illusion. Parce que peut-être c'est le seul moyen pour que tu comprennes. Voulons-nous échouer? Voulons-nous souffrir? Pour comprendre où nous voulons juste écouter l'avertissement du Seigneur, écouter sa parole, souffrir un peu dans notre chair, mais être dans l'éternité, dans la force, dans la vérité et voir sa gloire. Moi, je préfère souffrir un peu dans ma chair. Même si ma chair veut entendre ce que je veux, mais je dis quand même à Dieu, dis-moi plutôt ce que tu veux, parce que je sais que tu soutiendras ça. Je sais que tu seras avec moi. Voilà. Tu le dis même en souffrant, mais tu suis quand même. Vous savez, quand il est écrit que l'Esprit avait enlevé Ézéchiel pour l'amener, il est écrit que Ézéchiel était irrité. Parfois, faire la volonté de Dieu, on l'a fait avec irritation parce que ça ne marche pas avec notre chair, mais on fait quand même parce qu'on sait qu'il va nous soutenir. Il va soutenir la vérité toujours, la vérité est bonne. Mais parfois, nous la faisons avec irritation. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, Dieu te demande de l'aimer et de prier pour lui, de bien l'accueillir. Parfois, tu peux, dans les débuts, faire ça un peu avec d'irritation, mais avec le temps, l'irritation s'en va pour la paix, la joie et la construction. Parce que cette personne-là va devenir finalement ton ami et tu n'as plus de problème. Non, bien-aimé, suivons le Seigneur. Ne négligeons pas la Bible, la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, considérez-le comme anathème. La parole de Dieu par excellence, c'est la Bible. Tout ce que nous, on peut dire comme prophétie, prédication, ça doit être filtré par rapport à travers la Bible. Toujours. Dieu a déjà parlé, c'est la Bible. N'oublions pas, on peut avoir de bonnes idées. Nous devons toujours filtrer à travers la Bible. Est-ce que ce que je fais là, Dieu me soutient conformément à sa parole? Dieu me soutient conformément à son esprit? Parce que Dieu nous donne des procédures dans la Bible. Il y a des autorités. On voit même l'apôtre Paul qui a été appelé miraculeusement. Mais c'est Dieu qui parle aux gens qui dit, mais quand Paul voit Jésus sur le chemin de Damas, il dit, je vais faire quoi? Dieu lui dit, tu iras dans la ville, quelqu'un te dira ce que tu iras faire. Dieu ne lui a pas donné lui-même ce qu'il a à faire. Hein? Il a dit, quelqu'un te donnera. On doit respecter tout ça. Donc, Dieu t'appelle, Dieu t'envoie, d'accord, mais est-ce que tu ne peux pas être le seul à écouter cela? Samuel, Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Mais il ne comprenait pas. Il est parti voir finalement Élie. Et lui dit, prochainement quand tu vas entendre, tu dis Seigneur. Pourtant, Élie c'était qui? Un type pas trop recommandable. Mais, donc, il n'arrivait pas à gérer ses enfants. Mais c'était l'autorité qui était en place. On ne doit pas se dire, moi j'entends la voix de Dieu. Ce vieux Élie-là, il n'arrive même pas à s'occuper de ses enfants. Mais oui, mais c'est lui qui est en place. Respectons la façon de faire de Dieu. Quand on étudiait l'Exode, on était déçus de voir que c'est Aaron qui a contribué à faire le veau d'or. On s'est même dit, mais comment Dieu l'a nommé souverain sacrificateur? Mais ce n'est pas ton problème. Romains 11, 33 à 36 dit que Dieu n'a pas besoin de conseiller. Il fait tout seul. Il n'a pas besoin de conseiller. Il a besoin de collaborateurs, pas de conseillers. Lui, il a une idée, il vous donne. Par sa parole, vous appliquez. C'est Aaron qui l'a choisi. C'est Aaron qui l'a choisi. Tu te crois plus pur qu'Aaron, mais c'est Aaron qui a été choisi. Respecte Dieu. On ne te demande pas de faire confiance, de considérer Aaron comme Dieu. On te demande de respecter Dieu qui l'a mis là, c'est tout. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Faisons attention. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit, femme, soyez soumise. Mais c'est comme ça. Tu as bac plus 40, ton mari a bac plus 2. Mais tu dois être soumise. On se dit, oh mais non, lui vient du village, moi je veux me soumettre à un villageois. Mais oui, mais pourquoi tu as épousé un villageois alors? Donc il fallait réfléchir avant. Il fallait réfléchir avant. La Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ah mais oui, mais elle a un mauvais caractère. Mais oui, mais tu aurais dû voir ça dans les fiançailles, ce caractère. En plus, je crois que tu as vu un peu, mais tu as fait le têtu. Voilà. Après, maintenant, on veut maintenant bricoler tout et mettre la parole dans ce bricolage-là. Non, non, non. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et nous voyons le processus continuer. Le roi, on appelle Miché. Et le monsieur qui appelle Miché lui glisse à l'oreille, prophétise la même chose que les autres. Ah! Mais vous, vous voulez quoi? Prophétise la même chose que les autres. Michel a dit, ah non, moi je dirai ce que Dieu me dira. Mais c'est ce qu'on essaie de nous mettre comme pression. Mais dis la même chose que les autres. Dis la même chose que les autres. Moi je dénonce les choses. Par exemple, aujourd'hui il y a une union sacrée au Congo, puisque les gens souffrent tellement. Alors, tout le monde est censé être contre le pouvoir en place. D'accord, pas de problème. Et surtout pas de division. Et le catholicisme, maintenant, est en première ligne pour combattre le pouvoir en place. Maintenant, on a fait une émission et on m'a posé la question. On a dit, mais on voit le catholicisme combattre pour les pauvres, pour les gens qui sont maltraités au Congo. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont vraiment dans la vérité? Moi, j'ai dit non. Ce qu'ils font là, c'est très bien, combattre pour les gens qui souffrent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Aïe, j'ai reçu des encouragements sur Internet. C'est bien ce que tu fais, mais il ne faut pas de division. On a un combat à mener. Mais attends, d'accord, on a un combat à mener contre le pouvoir en place, donc vous voulez que moi je dise que le catholicisme est dans la vérité? Pas question. Vous n'avez qu'à me tuer moi aussi. La vérité, c'est la vérité. D'accord, ils soutiennent les pauvres, c'est bien, on n'a pas nié. Ils combattent le pouvoir en place, c'est bien, on n'a pas nié. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les idoles. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas le purgatoire. Donc, en quelque sorte, on te dit la même chose que tout le monde. On est tous des chrétiens. Tous les chrétiens sont contre le pouvoir en place. Moi, je dis, non, on n'est pas tous des chrétiens. Voilà. J'ai dit, on est tous des humains. Et un humain logique devrait être contre un pouvoir de ce genre-là. Voilà. Mais on n'est pas tous des chrétiens. Mais on veut te glisser. Dis la même chose que tout le monde. Michel dit non. Bien-aimé, Satan nous dit dernièrement, on m'a dit par l'ennemi, mais oui, mais toi tu veux contredire des gens qui ont bâti plus de 1000 églises, des centaines, ils ont ressuscité des morts, toi tu as ressuscité un mort. Tu veux contredire des gens qui ont prêché devant des milliers de personnes, toi tu as prêché devant combien de personnes? Donc tout ça, j'ai dit non. Ben, pendant un temps j'étais déstabilisé. Après, j'ai dit non, la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je présente la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à se battre contre Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi. Est-ce que parce que je suis un monsieur quelconque, je ne peux pas dire la vérité? Moi, je ne fais que lire comme un perroquet ce qui est écrit. C'est tout. S'ils ont quelqu'un à combattre, c'est Dieu lui-même qui a inspiré ça. En plus, ce n'est même pas moi qui ai écrit ça. Qu'ils aillent attaquer Paul au paradis et les pierres, tout ça. Ce n'est pas moi. Nous répétons ce que Dieu a dit. Même si nous sommes des messieurs quelconques qui n'avons pas fait grand-chose, mais Dieu, lui, n'est pas un monsieur quelconque. Il est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et sa parole est efficace, sa parole s'accomplira toujours. Et nous allons dire toujours sa parole telle qu'elle est. Comme Michel a dit, j'annoncerai la parole. Michel a dit, mais bon, comme vous voulez que je fasse semblant, ben je vais vous satisfaire. Il fait semblant, mais eux-mêmes, ils sentent qu'il fait semblant. Michel, sois toi-même. On voit que les gens connaissent où se trouve la vérité. Et c'est eux-mêmes qui vont nous rappeler, sois toi-même. Ne change pas. Alors Michel dit la vérité, ben, tu vas mourir pendant la guerre. Ah bon? C'est quoi ça? Et Michel donne l'explication. Il dit, Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Dieu a voulu ta perte parce que Dieu a vu dans ton cœur que tu n'avais pas ses pensées à lui. Alors, il a permis qu'un esprit de mensonge vienne inspirer les prophètes. Vous savez donc, avant, on avait du mal à comprendre que quelqu'un qui s'agite, qui est en transe, dise des fausses choses. Mais comment il peut? Ça ne peut être que Dieu. Ah non, on vient de lire. Il y a des esprits de mensonge envoyés par Dieu lui-même, hein. Ce n'est même pas envoyé par Satan. Par Dieu lui-même, parce qu'il a vu tes pensées. Tes pensées ne sont pas conformes à lui. Et comme tu ne le reconnais pas, il va permettre quelque chose de physique, de clair, en t'égarant pour que tu te rendes compte que tu t'es trompé. Il va même te soutenir, puisque dans ton cœur, tu ne veux pas accepter sa volonté. Il va te soutenir dans l'erreur. Afin que tu échoues physiquement, parce que physiquement, ça sera clair, tu ne pourras plus nier. Et tout le monde le verra que tu avais pris un mauvais chemin. Toi-même y compris. Et donc, un esprit de mensonge, il n'y a pas que l'Ancien Testament qui en parle. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est la même chose. Ce qu'il y a dans l'un, ça se trouve dans l'autre. Ça se trouve dans 2 Thessaloniciens 2. On va lire ça. 2 Thessaloniciens 2. Donc ne nous étonnons pas que des gens qui semblent de Dieu nous prophétisent, parce que les gens là qu'on a dit, on n'a pas dit que c'était des faux prophètes, on a dit seulement que c'était des prophètes. Même des gens qui semblent être corrects, plus ou moins corrects, dans leur faiblesse, un mauvais esprit peut venir travailler en eux. 2 Thessaloniciens 2, il est écrit ceci. À partir du verset 9, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La Bible dit de signes et de prodiges mensongers, parce que ça fait un moment que je suis en train de le dire, que les miracles du diable ne sont pas comparables aux miracles du Seigneur.
Là, on en a encore la confirmation. Les miracles du diable sont illusoires. Peut-être tu étais paralytique, tu te lèves, peut-être pendant 2 ans, et puis tu retombes. Pendant 1 an, et puis tu retombes. D'ailleurs, voilà, je connais un faux serviteur qui avait reconnu cela. Et pour expliquer ça, il avait dit, les gens ne se sont pas encore habitués à la guérison, c'est pourquoi ils retombent, alors que c'était des miracles sataniques. C'est William Marion Branham. Voilà. Nous continuons. Se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc Dieu lui-même envoie un esprit de garment, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Comme tu refuses la vérité, comme tu n'as pas l'amour de la vérité, comme tu aimes l'injustice, Dieu s'est confronté à toi dans ton cœur, tu n'as pas voulu, alors il t'envoie un esprit de garment pour soutenir ton erreur, afin que tu sois physiquement contraint, physiquement atteint, et c'est là qu'on espère que tu prennes conscience que tu avais pris une mauvaise voie parce que tu n'as pas l'amour de la vérité, parce que tu n'as pas les pensées de Dieu. Dieu te sollicite pour que tu changes tes pensées, tu ne veux pas, alors il t'envoie une puissance d'égarement pour te soutenir dans ton erreur. Tu prends des chemins qui ne sont pas de Dieu, il te parle dans ton cœur, tu ne veux pas. Dieu demande de pardonner, mais toi, tu justifies par la méchanceté de l'autre que tu n'as pas pardonné. Il est méchant. Mais Dieu te laisse dans tes voies et tu vas vivre des blocages. Et souvent, ce qu'on a fait à quelqu'un, on va subir ça soi-même pour qu'on se réveille, pour qu'on se dise, mais tiens, mais je suis en train de vivre ce que moi-même je fais à l'autre. Dieu va permettre ça. Et il va te soutenir quand tu prends les mauvaises décisions. Comme tu ne veux pas écouter, il va te soutenir. Les gens vont prophétiser. Toi-même, tu vas prophétiser pour toi-même. Tu vas même faire un rêve qui conforte ton idée, alors que c'est contraire à la parole. C'est contraire à la parole, mais tu fais quelque chose qui conforte cela. Et c'est ainsi que les gens qui soutiennent beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, la vente, que les femmes enseignent ceci, cela, ben, ils ont des idées, ils disent, mais oui, regardez, telle femme a été utilisée, telle... Mais oui, mais ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est utilisé, qu'il reçoit l'autorité. Est-ce que quand Rahab a été utilisée, Rahab est devenue autorité en Israël? Pourtant, elle a été utilisée pour donner la victoire à Israël. Est-ce que quand Marie a été utilisée pour donner naissance au Fils de Dieu, est-ce que... Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons qu'elle a une autorité quelconque. Combien de fois le Seigneur lui a dit, femme, reste à ta place. Elle n'a pas d'autorité. Mais les humains vont prendre quelque chose qui semble venir de Dieu, ils vont transformer en leur source, c'est leur pensée, ils en font la reine, la mère de Dieu. Alors que dans les Écritures, ce n'est pas ce qui est écrit. Dans les Écritures, c'est dit, Dieu t'a fait grâce. Et ils en ont fait une prière, Ave Maria. Ce sont les pensées de l'homme. Mais Dieu va laisser les gens. Même il va les conforter. Ils vont avoir des moyens pour construire des bâtiments. Mais il les conforte dans leurs bêtises. Jusqu'à ce que ça devienne très clair que c'est vraiment des bêtises. Et que les gens soient honteux d'être dans ces bêtises-là. Et c'est ce qui se passe là. 400. Michée explique le processus. Il dit, Dieu a voulu frapper ce monsieur-là, parce qu'il a trouvé en lui des pensées qui n'étaient pas ses pensées. Alors il a cherché un esprit pour conforter le monsieur dans l'erreur. Et ce roi-là est mort. Et Josaphat, qui l'accompagnait, s'est trouvé en mauvaise position, en difficulté. Parce que qu'on le veuille ou pas, les gens qui s'égarent, ils sentent un peu dans leur cœur qu'il y a un problème. Mais ils ont trop la convoitise de quelque chose, ils s'enfoncent. Et le roi là qui s'est garé, il a pris la précaution, il a dit, moi je vais m'habiller en homme quelconque. Il dit à Josaphat, le roi de Juda, toi tu t'habilles en roi.
Il sentait bien que Michel devait avoir raison. Mais quand la convoitise est grande, même quand on sent que la vérité, ce n'est pas ce qu'on fait, la convoitise étouffe cette vérité-là. On continue quand même. Mais il y a quand même une. Il sentait que la vérité était bonne. Que c'était ça la vérité, ce que Michel disait. Alors il a demandé à Josaphat de s'habiller en roi, lui en homme simple. De sorte que les ennemis, quand ils ont voulu tuer le roi, ben c'était Josaphat. Josaphat dit, c'est pas moi. Allez le chercher là, c'est pas moi. On a fini par attraper l'autre. Donc, en suivant les gens, sans que tu sois couvert par la parole, toi aussi tu risques de finir mal. Il faut être toujours couvert par la parole. Soutenu par la parole de Dieu. Quand tu veux t'associer avec quelqu'un, vous devez être soutenu par la parole de Dieu. Soutenu par la Bible. Ne suis pas par amitié, par logique de famille. Tu vas suivre n'importe comment et tu vas recevoir des mauvais esprits. Tu vas te mettre en difficulté alors que ce n'était pas ton problème. Mais l'amitié t'a fait entrer dans ça. Le lien familial, le lien national aussi. Parfois, on se retrouve français dans un autre pays. On commence à faire tout ensemble et on mélange les choses. Voilà, le lien national de d'origine, ça peut amener à cela aussi. La convoitise, ça peut amener à ça aussi. Tu dis, moi aussi, je vais profiter du gâteau et tu suis comme ça et tu vas finir mal. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. Imitons Ézéchias. Ézéchias n'a pas dit, ben, c'est Moïse. David a laissé faire, c'est pas moi qui vais changer les choses. Ézéchias a dit, c'est ne pas conforme à la parole de Dieu. Que les gens de la famille ne t'entraînent pas dans quelque chose qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. On va t'expliquer des choses. Dès que tu sens qu'il y a un peu de flou, tu dis, ah non, moi je n'entre pas dans ça. Il y a une année, j'étais parti voir, visiter mon père. Il m'a dit, il y a des situations familiales qui nécessitent de l'argent pour que je rachète telle chose, parce que comme votre grand-père avait... Moi, je dis, ah, papa, moi, je vais te donner de l'argent pour t'aider en tant que fils, mais je n'entre pas dans vos trucs-là. Tu feras ce que tu veux avec cet argent. Moi, je t'aide, toi. Toi, tu feras ce que tu veux de cet argent-là. Donc, lui, il voulait m'entraîner. Moi, j'ai dit, non. Moi, je suis chrétien. Les histoires de racheter, là, je ne sais pas comment, je ne suis pas dedans. On va vouloir t'entraîner parce que c'est la famille, parce que c'est... Non. Parce que c'est l'amitié, non. La vérité, c'est la vérité. Vaut mieux être soutenu par la vérité, soutenu par Dieu. Dieu te défendra toujours jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une église de 100 000 membres que c'est lui qu'il faut suivre. Il faut suivre la parole de Dieu. Celui qui suit la parole de Dieu, celui qui suit la vérité. Et tu seras soutenu à jamais. Les vedettes passent, même les vedettes chrétiennes, elles passent. Mais Jésus demeure à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne te laisse pas... c'est pas parce que quelque chose qui vient en inspiration que c'est vrai. Il faut toujours confronter ça à la parole. Il faut confronter ça au Saint-Esprit. Confronter ça à la communauté. Parce que dans la communauté, Dieu a mis des dons dans les gens pour nous permettre de ne pas dévier aussi. C'est écrit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12. L'Esprit se manifeste envers chacun de nous pour l'utilité commune. On ne peut pas vivre tout seul. On doit mettre ça devant les autres aussi. C'est très important, bien-aimé. Dorénavant, quand nous avons des idées, des pensées, confrontons ça à la parole. Est-ce que nous suivons la parole dans ce que nous faisons? Discutons avec les aînés. Est-ce que nous suivons la parole dans ce que nous faisons? C'est comme ça qu'on évitera de tomber dans des pièges graves. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne faut pas donner des responsabilités à un nouveau converti parce qu'il risque d'être pris dans l'orgueil. Parce qu'il ne connaît pas certaines réalités. Il va croire que c'est lui le nouveau apôtre Pierre, le nouvel apôtre Pierre, c'est lui le nouveau Paul. Mais parce qu'il n'a pas encore expérimenté les réalités, les difficultés du ministère. Donc il faut pas à pas amener les gens à la responsabilité. Pas précipitamment. Ils risquent de se... C'est écrit, ils vont tomber dans le piège du diable. On a besoin d'être calme, de ne pas se croire supérieur à Dieu, de ne pas se croire supérieur aux autres. Parce qu'en général, on ne se dit pas supérieur à Dieu, mais on se croit supérieur aux autres. Or, quand on fait ça, on désobéit à la parole qui dit dans Philippiens 2 que chacun considère les autres comme supérieur à lui-même. Et nous, on se dit, je crois que c'est moi qui ai vraiment le don de prêcher. C'est moi vraiment qui ai le don de chanter. Et tu n'écoutes plus les conseils des autres. Ah non. Humilions-nous devant Dieu. Et comment on s'humilie devant Dieu? En s'humiliant devant les hommes. En s'humiliant devant la parole de Dieu. Que nos raisonnements ne nous mettent pas au-dessus de la parole. La parole est au-dessus de tout. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus-Christ, le chemin est encore long. Restons sur sa parole, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, presque tous les serviteurs de Dieu ont à un moment donné résisté à Dieu à cause de leur raisonnement. Abraham l'a fait à cause des raisonnements. Nous voyons Moïse lui-même. Les raisonnements, on lui dit de taper, de parler. Lui, il a tapé sur le rocher. Parce qu'il s'est dit, c'est toujours ce bâton qui a produit. Ça, c'est le raisonnement. Même si c'est Dieu qui avait fait, on ne doit pas prendre ce que Dieu a fait, mettre ça à notre sauce. Quand lui dit, à un moment donné, il faut obéir à l'instant. Il ne faut pas faire un amalgame des choses. Saül n'a pas voulu écouter. On lui dit, tu élimines le bœuf, le bœuf. Tous les animaux, tu les élimines, tu éradiques la population de ces gens-là. Le roi Agag, tu le tues. Mais il a dû se dire, mais à quoi ça va servir que je tue tous ces animaux? Ça peut servir pour le sacrifice de Dieu. Il s'est trompé encore, c'était sa pensée. Dieu avait dit qu'il fallait tout tuer, tout éliminer. Et on ne comprend pas. On se dit, mais Dieu, mais non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est ce qu'il a dit. Même si ça ne cadre pas avec ton raisonnement, c'est ce qu'il a dit. L'apôtre Pierre, le Seigneur dit, je vais être crucifié. Ah non, je ne crois pas. Jésus va aller ressusciter Lazare. Ses propres apôtres lui disent, mais pourquoi tu vas là-bas, on va te tuer. L'homme a toujours voulu aider Dieu. Expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Et ça peut t'arriver comme ça peut m'arriver. Notre chair veut convaincre Dieu, alors que c'est Dieu qui doit piloter. Vraiment, prions que le Seigneur nous humilie, qu'on soit humble face à lui. Seigneur, nous venons prier que nous soyons humbles face à toi. Nous ne voulons pas être tombés dans les mêmes erreurs que nos amis d'autrefois, nos frères d'autrefois, qui ont préférer parfois te résister parce que leur raisonnement les poussait à ça, Seigneur. Leur raisonnement les poussait à ça. Salomon a suivi ses raisonnements, il a pris 1000 femmes, Seigneur. Ça a mal fini. Pierre n'a pas voulu écouter. Alors que toi, tu voulais aller à la croix. Jonas, on lui dit d'aller sauver les gens. Il n'a pas voulu. Parce que ça n'allait pas avec son raisonnement, avec ses idées. Toi-même, tu dis que tes disciples, alors que tu as multiplié les pains, ils n'ont pas compris toujours que tu étais le Messie parce que ça contredisait leur raisonnement. Le Messie ne pouvait pas être aussi simple que ça. Alors que le miracle était extraordinaire, mais pour eux, comme tu étais simple, ça ne marchait pas avec ça. Combien de fois nous pensons que, Seigneur, là où on prie à deux, c'est comme si tu n'étais pas là. On veut être là où il y a 1000 personnes, Seigneur. Nous ne voulons plus être conduits par nos raisonnements, Seigneur. Nous voulons suivre ta parole qui dit là où deux ou trois sont réunis. Tu es là, Seigneur. Un point, c'est tout. Combien de fois, Seigneur, nous avons suivi nos pensées? Pardonne-nous et aide-nous maintenant à suivre ta parole. Qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai. Tu vas pourvoir. Nous n'avons pas à nous compromettre pour avoir de l'argent. Tu pourvoiras à nos besoins, dans la vérité, dans l'honnêteté, Seigneur. Nous n'avons pas à faire de la publicité pour attirer les gens à toi. Nous devons prêcher l'Évangile. C'est toi qui attireras les gens par ton esprit, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur, à flatter les humains, mais alors dire la vérité avec amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à obéir tout simplement. Même si les hommes sont mauvais envers nous, qu'on les aime, Seigneur. À obéir tout simplement. Même si hier, on a prié pour un malade, il n'a pas été guéri, aujourd'hui, nous prions encore pour un autre malade. Que les échecs du passé ne nous empêchent pas de faire des actes positifs pour l'avenir, Seigneur. Nous voulons marcher par rapport à ce qui est écrit et non par rapport à ce que nous avons vécu. Aide-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole définitivement, car ta parole est la vérité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.